locataire oriental. J'ai refusé totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être de notre. La Fondation Mont Ibrahim a publié lundi dernier son indice annuel sur la gouvernance en Afrique qui analyse les performances en termes de politique de sécurité, d'économie, des droits de l'homme et de santé. Classée à la 51e place, la RDC réalise un score nettement en dessous de la moyenne africaine en termes de sécurité, de respect du droit, de développement humain, de développement économique et d'infrastructure. Que proposez-vous pour améliorer cette situation? Composez le 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Nadine Foula, Pierre Lameji et Jean-Claude Ziala qui réalisent cette émission. Et Gir Lungebo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nikon Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole d'après les critères choisis par la Fondation Mont Ibrahim pour évaluer les niveaux des bonnes gouvernances des pays africains. La République démocratique du Congo, comme je viens de le dire, arrive en 50e position sur les 53 pays évalués. Donc le Tchad et la Somalie viennent juste après. Nous avons en ligne le professeur Bakandeja. Bonjour professeur.
Bonjour, monsieur Gérard.
Alors, qu'est-ce qui, depuis, est-ce que ce rapport de Mont Ibrahim reflète réellement la réalité de la gouvernance au Congo?
Je pense que cela peut être un oui et éventuellement aussi un non. Parce qu'il faut d'abord qu'on se comprenne sur le terme, le contenu même de la notion de gouvernance. Vous savez, lorsque l'on parle de management d'entreprise, des relations internationales ou encore de politique intérieure, le terme de gouvernance est devenu omniprésent. Mais c'est une notion qui s'est épanouie plutôt à partir des années 90 pour marquer la victoire de la technique, de la gestion sur le politique, le gouvernement. Alors, son fonctionnement requiert des conditions très précise, vous avez l'abondance matérielle, le ralliement des acteurs sociaux à des règles de jeu intériorisées. Et lorsqu'on regarde la situation de la République démocratique du Congo, on constate bien que l'abondance matérielle n'est pas là pour l'instant, parce qu'il y a une pauvreté qui s'est aggravée davantage. C'est pour l'ensemble des pays concernés, vous avez parlé de 52, mais il y a diminution de l'abondance, donc aggravation de la pauvreté sur l'ensemble du continent. Et puis, le ralliement des acteurs sociaux à l'intérieur du jeu intériorisé, ce ralliement ne se fait pas à cause des crises sociales, des crises politiques. Et ça, c'est un peu ce qui semble caractériser pour l'instant notre pays qui est engagé maintenant dans un processus de réconciliation, de cohésion nationale. Et c'est ça qui explique un peu la place qui est réservée au Congo, qui n'est pas enviable. Voilà, en gros, ce que je peux dire, mais les efforts sont palpables en ce qui concerne la mise en œuvre des conditions permettant d'améliorer la qualité de la gouvernance publique.
Mais professeur, ça paraît paradoxal quand on entend des discours du genre la maîtrise du cadre macroéconomique et par rapport à cet indice, il y a vraiment une dichotomie.
Oui, parce qu'il ne faut pas prendre les choses en un mot, c'est globalisant. Vous voyez, lorsqu'on parle de la gouvernance aujourd'hui, la gouvernance est comprise dans le sens de la globalisation, parce qu'on estime que le monde aujourd'hui est un monde qui est devenu global. La terre entière paraît se rallier donc à ce modèle occidental qui est triomphant, avec multiplication des échanges, économie de marché, démocratie libérale, promotion des droits de l'homme. Tous ces éléments-là sont un tout. Donc aujourd'hui, on est au temps de la mondialisation et au temps de la globalisation. Alors, donc, vous voyez que les mots n'apparaissent jamais par hasard. Les mots apparaissent à travers des contextes bien définis, et derrière des mots nouveaux s'exprime le besoin de formuler quelque chose d'inédit. Et c'est ainsi que vous voyez les questions économiques, les questions sécuritaires, les questions sur les droits de l'homme, et tout ça, ça fait un tout. Et c'est ce tout-là qui fait que lorsqu'on prend un paramètre, par exemple, on voit le paramètre macroéconomique, on dira non, ça ne semble pas marcher, parce qu'on est dans une période de crise. Et quand on est dans une période de crise, on ne peut pas souvent sentir les efforts qui sont entrepris face à l'aggravation. Vous voyez la situation du Congo, on vient du néant, donc une croissance qui n'existait pas. Maintenant, la croissance commence à venir. Malheureusement, elle n'est pas palpable parce qu'elle n'est pas basée sur l'augmentation de la production intérieure pour l'exportation et qui rapporterait de l'argent. C'est ainsi que quand on prend seulement cet aspect-là, on se rend compte parfois que ce n'est pas fait, mais en termes d'organisation, il faut voir l'organisation globale, en termes d'organisation, en termes d'investissement, il y avait une faiblesse d'investissement, parce que la gouvernance aussi se caractérise par la faiblesse de l'investissement productif, l'investissement palpable qui a des effets réels sur la vie des populations. Alors quand on prend seulement cet aspect-là, on dira que, bon, on n'a pas atteint les résultats, mais les efforts sont... C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On ne peut pas simplement se baser sur un fait, là, ça ne marche pas, et puis il y a les questions qui sont liées à l'exercice du pouvoir politique, à l'institutionnalisation des institutions, pour éviter ce qu'on appelle parfois les pouvoirs personnels, etc. On veut que tout le monde participe à l'action parce que le contenu même de la gouvernance est complexe. Il y a des programmes de gouvernance, il y a les questions de participation, les questions de responsabilisation, la lutte qu'il faut mener contre la corruption et tout ça. Ce n'est pas à apprécier du commun du mortel facilement.
Oui, professeur, aujourd'hui, disons, cette contre-performance est liée à quoi, au problème d'homme ou c'est un problème du système?
C'est à la fois lié au système lui-même et à la qualité des hommes. Vous savez, l'essentiel, par exemple, n'est pas de dire qu'il faut faire participer tout le monde, etc., mais la qualité des hommes qui vont animer, et puis les règles du jeu qui sont instituées. Par exemple, en matière de traçabilité dans la gestion, ce qu'on appelle un peu la transparence, il y a, sur le plan juridique, par exemple, les textes organiques ou des textes de loi qui doivent participer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance, si ces textes sont obsolètes ou ne sont pas adaptés, on ne suit pas le mouvement. Les tracasseries qu'on remarque par-ci par-là, la responsabilisation par exemple des acteurs, parce que il ne faut pas que ceux qui accèdent par exemple à des fonctions ne rendent pas compte. Ce qui implique dans la gestion des finances de l'État, que les gens aient l'habitude de rendre compte. Souvent, vous voyez, dans certains pays qui nous entourent, les pays qui sont développés, on voit que on suit parfois certaines autorités pour avoir menti. Le fait de mentir, par exemple, de donner une fausse information, ça constitue un motif, par exemple, de renvoi d'un gouvernement. Donc, est-ce qu'on peut envisager ici quelqu'un qui aurait donné de fausses déclarations qu'il quitte le gouvernement? Mais c'est impensable dans l'Afrique parce que il y a un problème de rectitude morale qui doit être réglé. Donc voilà, c'est un tout. Donc c'est lié à la fois aux règles qui sont mises en jeu, c'est lié aussi à la fois à la qualité des acteurs, mais c'est surtout à l'indépendance et à la rectitude des gens qui doivent dire le droit. Donc la justice dans un pays doit jouer un rôle important. Si au niveau de la justice il n'y a pas cette rectitude qu'on doit retrouver pour sécuriser les gens, Alors, vous voyez, en ce moment-là, les gens sont dans l'incertitude et la gouvernance aussi, quand il y a incertitude, ça ne peut pas aller avec une gouvernance de qualité.
Alors, vous avez eu à piloter, disons, une commission d'audit, et aussi vous avez fait des rapports qui sont restés dans les annales de processus de la démocratisation de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées?
Je peux dire oui et non. Il y a des avancées peut-être dans le discours, mais pas dans la pratique. Parce que, vous voyez, surtout lorsqu'il faut gérer les affaires financières de l'État, ce sont les affaires les plus importantes, il n'y a pas d'État sans argent. Non, il n'y a pas d'État sans argent. Et dans les pays qui sont des pays qui servent de modèle, on est rigoureux en matière d'utilisation des ressources publiques. Et lorsqu'on constate, par exemple, qu'il y a des malversations dans cette utilisation, on sanctionne les acteurs. Et ça doit être une question de volonté politique affirmée. Et je prends seulement l'exemple d'un pays dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, aux États-Unis, on parle de ce plafond budgétaire, et ça fait l'objet de toute l'actualité internationale, parce que si le budget américain, le problème de la dette américaine n'est pas réglé, ça aura des répercussions sur l'ensemble des ressources de la planète. Et bien c'est lié à quoi? C'est lié à l'argent. Et ces parlementaires ne veulent pas voir l'argent utilisé de la manière qu'ils n'apprécient pas. Et il y a donc, vous voyez, tous ce ping-pong, ce match de tennis entre la Maison-Blanche et les parlementaires, et vous voyez que c'est une question importante et délicate. Quand vous voyez les autres États européens, vous avez la France, la Belgique, etc., les questions budgétaires, de répartition des ressources, sont les questions les plus importantes. Et on doit s'assurer de l'utilisation de ces ressources. Or, sur ce point-là, il ne me semble pas qu'au Congo on ait résolu le problème de l'utilisation des ressources. Et je prends la question, par exemple, on parle beaucoup de la décentralisation financière. Tout ça, ça participe de la qualité de la gouvernance. Décentralisation financière. Mais est-ce que la décentralisation financière signifie donner des moyens aux gouvernements provinciaux et aux assemblées provinciales de se partager les ressources rien que par les dépenses de consommation, ou bien c'est un transfert de compétences financières pour transformer le milieu dans lequel on se situe. Et si on prend seulement cet aspect-là, on constatera que, bon, même ceux qui réclament cette décentralisation financière ne sont pas convaincus, parce que la décentralisation va s'accompagner des contrôles, et les contrôles doivent conduire à des sanctions. Il ne me semble pas que ceux qui se livrent à cet exercice
soient
inquiétés par...
Comme on l'a dit, le loup ne se mange pas. Entre 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui va ouvrir les débats. Olivier, vous êtes à Likassi. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. Les débats tournent autour de ce rapport publié par la Fondation Mont Ibrahima sur la gouvernance en Afrique. Et ce rapport analyse les performances en termes de politique de sécurité, d'économie, des droits de l'homme et de santé. La RDC est classée à la 51e place. Alors, que proposez-vous pour améliorer cette situation?
Vous savez, messieurs les journalistes, la République démocratique du Congo est un grand pays d'Afrique. Et il est aussi le poumon que le monde entier espère. Et le rapport publié par le Mont Ibrahim, en tout cas, le Mont Ibrahim avait raison. Pourquoi? Parce que pour faire sortir notre pays dans tous ces cas-là, il faut avoir un leadership patriote qui est en mesure de pouvoir sortir notre pays dans toutes les voies possibles que le Mont Ibrahim avait publiées. Parce qu'il faut connaître d'abord la densité de nos populations, connaître la superficie, connaître aussi les potentialités de notre pays. À ce moment-là, les politologues et les grands politiciens de notre pays pouvait maintenant être en mesure de sortir notre pays à des résultats publiés par le Mont Ibrahim.
Voilà, vous évoquez là le problème de leadership, hein, patriote, c'est comme ça que vous définissez, ou peut-être vous exprimez votre intervention. Merci Olivier d'avoir appelé de l'ICASI. Kaleba, vous êtes à Goma. Bonjour Kaleba.
Bonjour Jédi.
C'est plutôt JR qui est à l'antenne.
Oui, JR. Merci beaucoup JR de m'associer à cet échange d'idées. D'après de JR, je tiens d'abord à saluer l'invité, le professeur Bakateja, que j'ai connu à l'Edigone comme professeur. Eh bien, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je dirais que, comme venait de le dire le professeur, et d'ailleurs que j'ai sali la pertinence de l'analyse qu'il a pu amener au départ, les rapports rendus publics par cette formation, moi, ça ne m'a pas du tout surpris dans la mesure où, ces rapports ne fait que rendre public ce que nous vivons au quotidien. Vous savez, chez nous, à la République du Congo, tout est... En fait, les indicateurs sont au rouge. Je me demande d'abord les pays qui ont été classés derrière après nous, dit mon Dieu. Là, les gens disent comment. Là, il n'y a pas l'envie là. Qu'est-ce qu'il en fait? Parce qu'au Congo, nous qui sommes classés le 50e, à la 50e place, il y a encore d'autres personnes qui viennent après nous. Je l'ai dit, en tout cas, dans ce pays-là, il n'y a pas l'Asie. Et là, monsieur, je peux dire que, vous savez, monsieur, j'ai dit, pour qu'on parle de la démocratie, pour qu'on parle de la bonne gouvernance, pour qu'on parle du développement, il y a certains principes de base auxquels on doit s'en tenir. Bon, je ne peux pas comprendre que chez nous, car il y a du Congo, qu'on puisse parler de la démocratie, du développement, ça qui n'est pas un budget conséquent. Ça qui n'est pas des bonnes infrastructures judiciaires, ça qui n'est pas une bonne justice. D'abord, je prends le cas de la manière dont fonctionne notre justice. Parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas non plus des routes, il n'y a pas non plus un budget conséquent. Ça, une bonne justice. Vous m'entendez?
Oui, on vous suit très bien, Kaleba.
Ok. Il n'y a pas de développement, ça, une bonne justice. Comment voulez-vous le Congo qui a une dimension continentale puisse avoir un budget de 7 milliards et quelque chose de dollars comme ça? Mais c'est impensable. C'est un budget de plus en plus mesquin. Je me demande d'abord tous ces hommes-là qui entourent le chef de l'État, tous ces fiscalistes-là. Je me demande au moins s'ils savent que c'est le budget, c'est l'impôt qui est la principale ressource d'un État. Mais ils ne s'efforcent pas. Il ne s'efforce pas pour mobiliser les moyens. On ne peut rien faire sans moyens. On ne peut rien, même si on veut organiser la justice, même si on veut construire des routes, même si on veut avoir des bonnes infrastructures, des bonnes écoles. Mais comment vous pouvez le faire sans moyens? Sans moyens. Ça me dépasse. Et en termes de propositions, je dirais que j'invite les dirigeants congolais de pouvoir quand même mettre un peu du sourire dans la manière de gérer la
reste chose publique.
Du mm-hmm. J'allais dire la chose publique. Mm-hmm. Parce que quand vous installez à la tête du pays un système mafieux où tout le monde ne fait tout ce qui est bon lui semble, quelqu'un peut détourner, tellement qu'il est proche de X ou de Y, il bénéficie du parapluie du chef, je ne sais pas moi de qui, on ne peut pas l'arrêter. Mais comment voulez-vous qu'on parle, qu'on nous classe à la cinquième place, j'allais dire sixième ou cinquième? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Par conséquent, j'invite le dirigeant congolais pour faire sortir le pays de cette impasse, de ce marasme. Je les invite à pouvoir mettre un minimum du sérieux dans la manière de gérer la chose publique. Tous les Congolais, on les est rivés sur eux, qui ne nous flattent pas, qui ne nous flattent pas. Même la consultation qu'on vient de faire bientôt ici. On peut changer de premier ministre, même 20, mais tant que le système reste le même. Je vous dis, ça sera la même chose.
Merci Kaleba.
C'est des problèmes liés, comme l'a dit le professeur, évidemment, c'est des problèmes liés à la fois à la qualité de l'homme, mais aussi au système qui est installé à la tête du pays. Voilà un peu ma réaction par rapport à l'homme.
Merci beaucoup Kaleba, et on ne peut rien atteindre dans le développement humain, selon vos propos, sans moyens. Il faudrait qu'à un certain moment, que les autorités pensent à allouer le pays, donc à doter le pays d'une loi financière très 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 considérable, pouvant permettre la réalisation de certains projets. Merci beaucoup Kaleba d'avoir participé à cette émission. Nous avons Gaston qui est à Kinshasa. Gaston, bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Oui, Gaston, vous avez suivi vos prédécesseurs, Olivier, Kaleba, ainsi que notre invité. Vous avez la parole, votre point de vue.
D'accord. Comme il s'agit, à mon avis, d'un rapport publié par une fondation, vous savez qu'une fondation, je vous ai dit autrefois que j'ai aussi ma fondation, en particulier, c'est des objectifs, entre autres, de faire les évaluations dans ce sens-là et puis dresser un rapport à l'encontre des États. Et puis, nous devons aussi, d'abord, nous demander quelle considération que les États accordent au rapport publié par une telle fondation, ça avant d'engager le débat, mais même si ce qu'il dit là-dedans est vrai, en ce qui concerne les pays africains, moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un grand problème en voyant la situation
d'Afrique. Gaston, on va évoluer parce que l'indice est établi sur la base de la performance des pays dans quatre catégories de gouvernance, donc à savoir la sécurité et la souveraineté du droit, la participation aux droits de l'homme, le développement économique durable et le développement humain. Votre intervention, s'inscrit dans quelle catégorie?
Oui, je vais prendre, je pense, la sécurité et puis le droit de l'homme aussi.
Oui, allez-y.
D'accord. Vous savez que je veux ici que nous puissions nous révolter. C'est d'abord ça la solution. Nous devons nous révolter. Pourquoi? À l'encontre de qui? À l'encontre de ceux qui manipulent, disons qui manipulent, ceux qui manient les armes pour piller, tuer les gens, voler l'argent de l'État, on confond la gestion de la chose publique. Voilà, ces gens-là qui passent, qui sont manipulés, nous devons nous révolter. Contre eux. Et puis, vous devez savoir que si une personne passe au pouvoir par les armes, celui-là ne vient pas pour les intérêts de la population. Là, je vais dresser un message au centre africain. Donc, lorsqu'on utilise les armes, surtout pour les intérêts, parce que les armes, c'est de l'argent, et lorsqu'on utilise ça pour passer au pouvoir, donc c'est plus pour ses propres honneurs, et puis les honneurs de ceux qui les soutiennent. Dans notre pays, vous allez constater qu'il y a l'impunité qui est garantie. Et là, j'ai même entendu que les États africains ont demandé au Conseil de sécurité d'appliquer l'article 16, qui en soi, autorise au Conseil de sécurité de suspendre des affaires engagées ou en voie d'être engagées par la CPI. Ça, c'est toujours une manière de favoriser l'impunité. Donc, les États comme la France influence, l'inclusion de l'article 134 dans les statuts. C'est toujours pour protéger ces militaires qui opèrent à l'étranger, qui viennent commettre des crimes. Les Américains aujourd'hui, même, ce sont militaires qui commettent un crime à l'étranger, ne peuvent pas être jugés à l'étranger. Donc, on cherche à tout prix à protéger les criminels. L'impunité, lorsque l'impunité continue, vous voyez, les victimes sont abandonnées et ça ne va pas. Moi, je pense que dans ce sens-là, il ne faut pas chercher à tout prix à accorder aux gens le brevet d'impunité. Il faut chercher à réprimer, parce que sans la sanction, ouais, n'importe qui peut se comporter, n'importe comment, sachant que je vais vivre longtemps, en paix, bien que mes comportements.
Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé. Vous avez évoqué la question de l'impunité, qui peut constituer également un frein au développement d'un pays. Arsène est à Kikwit. Bonjour, Arsène. Arsène, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, vous avez suivi Olivier qui a évoqué le leadership patriote, Kaleba qui a donné quelques principes des bases dans la gestion de la chose publique, et Gaston qui est revenu sur l'aspect impunité. Et vous avez la parole. Quel est votre point de vue? Que faire pour améliorer cette situation par rapport au rapport de la Fondation Mo Ibrahim?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur. Moi, je crois, à mon avis, d'abord, c'est l'honnêteté. Quand on est honnête envers soi-même, je crois qu'il y a facilité de faire ce qu'on veut faire. Finalement, moi je me demande, dans cette nation, si nous voulons la bâtir ou bien nous cherchons à la détruire. Moi je veux prendre l'aspect plus du côté développement économique dans l'honnêteté des investissements. Cet aspect m'intéresse beaucoup, comme le professeur l'avait dit, c'est toute une globalité, mais je prends un aspect. Je prends l'aspect du développement économique à partir des Kikwit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, à Kikwit, nous nous sommes dit, écoutez, nous avons des problèmes d'énergie, nous ne savons pas comment développer notre contrée sans énergie. Mais alors, il y a toute une procédure qu'il faut faire pour qu'on puisse réussir. Nous avons eu la chance que le gouvernement a pensé à nous pour commencer à bâtir le barrage de Kakobola. Mais alors, il y a un problème qui se pose. Le problème se pose au niveau de toute l'opération. Comment ça doit se dérouler du début à la fin? On risque de se retrouver comme on était dans une parcelle où on a deux ampoules à allumer, puis on va acheter un groupe électrogène de 100 kVA. À Kikwit, nous avons un problème. Nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons même pas ce qu'on appelle la petite industrie. Il n'y en a pas. On risque d'obtenir 20 MW à Kikwit pour ne rien faire avec. Et avec des maisons en paille, je ne sais pas comment nous allons commencer à payer nos factures. Donc, ça veut dire ceci. Si j'ai pris cet exemple, c'est pour expliquer que nous devons avoir l'honnêteté de l'investissement comme ça doit se faire. Nous devons avoir l'industrie de base, le grand consommateur. À part ça, il y a la publicité, la propagande politique qui détruit, qui fait un mensonge qu'on ne sait même pas expliquer. On crie du jour au lendemain, modernité, modernité, modernité. Mais qu'est-ce que c'est la modernité? Et ça, c'est ce que moi j'appelle le mensonge. Le mensonge politique risque de nous détruire et nous ne comprenons pas comment nous développer. Voilà, nous nous retrouvons à la dernière place.
Oui, et le professeur l'a dit.
Je ne sais pas prendre beaucoup de temps.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs. Merci beaucoup Arsène d'avoir appelé parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur la liste. Ils ont en ligne hein, qui cherchent à intervenir. Donc, il faudrait être précis, concis pour permettre à ce que les autres aussi interviennent. Dadi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Dadi.
Oui, bonjour, Roger.
Vous avez la parole, Dadi.
Oui, je vous remercie pour ce sujet et je salue mon professeur de l'UNIKI, professeur Grégoire Bakandeja, qui est toujours considéré comme étant un savant. Moi, je dis ceci. Moi, j'aborde plutôt l'aspect économique. D'abord, je suis au regret de constater que c'est chaque semaine que notre gouvernement qui se réunit à Troïka. Et ils nous disent toujours que non, sur le plan économique, il y a une amélioration du cadre macroéconomique. Alors, je ne sais pas si cette amélioration se constate tout simplement dans leur bureau et non pas dans la population. Alors, deuxièmement, moi, j'ai pensé que cette année, on allait peut-être occuper une bonne place. Et je suis au regret de constater que même l'État récemment créé, le Sud-Soudan, nous dépasse. Et même la Somalie. Alors, moi, je dis ceci. Il ne suffit pas seulement de trop parler, mais le gouvernement doit plutôt concrétiser toutes ses ambitions aux actes concrets.
Oui, oui, Dadi, pour votre précision, pour votre gouvernement, ce classement, c'est lui de 2011, je crois que, qui a été publié donc en 2013, hein, mais c'est le classement de 2011. Notre gouvernement a plus d'une année, je crois que c'est vrai, nous restons dans le principe de continuité de l'État, ils ne peuvent que continuer et assumer les passifs et l'actif du gouvernement passé, mais néanmoins, il faudrait pour votre gouvernement de noter que ce classement, c'est pour 2011.
Mais écoutez, moi je ne sais pas si je peux encore dire quoi. Quand vous héritez quelque chose, vous héritez et l'actif et le passif. On ne peut pas juger ce gouvernement par rapport au gouvernement passé. Nous ne jugeons pas que c'est lui qui gouverne le pays actuellement. Alors il est censé à mieux gouverner pour que nous ne puissions pas assister à de telles publications. Parce que vous savez, quand vous avez par exemple, parce que quand on a publié ces résultats, nous avons quel score? C'est 30,1%, c'est-à-dire à l'université, si un étudiant obtient 30%,
il
est carrément refusé. Mm-hmm. Alors, parce que le pays est refusé, par ces rapports, nous sommes censés à nous inscrire dans une autre université qui est celui de la bonne gouvernance. Donc, voilà un peu ma contribution.
Merci beaucoup, Dadi. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous avez suivi cette première série des auditeurs qui ont participé à cette émission. Donc, les auditeurs qui ont émis aussi, qui ont exprimé leurs préoccupations, Olivier, Kaleba, Gaston, Arsène ainsi que Dadi. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres, professeur?
Alors d'abord, je voudrais saluer Arsène, Daddy, Olivier, Gaston et notre ami de Goma, je crois, qui a parlé du leadership patriotique, etc. Je comprends leurs préoccupations, c'est tout à fait normal qu'en tant que Congolais, ils soient touchés dans leur fort intérieur. Mais le plus important n'est pas de s'apitoyer sur son sort, c'est de penser des stratégies. Et c'est dans ce contexte-là, dans les États sérieux, on développe ce qu'on appelle l'intelligence économique et juridique, qui est une sorte de veilleur ou de veilleuse, s'il faut le dire aussi, de la nation. Et sans cette conviction-là, on ne peut pas atteindre les résultats. Je comprends aussi qu'ils insistent sur la question de l'impunité, parce que on a constaté dans tous les domaines, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la gestion économique, etc., que nous sommes un pays qui favorise ceux qui sont hors la loi. Voyez la situation, par exemple, maintenant, avec tout ce que nous connaissons comme mouvement rebelle. Lorsque on voit des gens qui trahissent leur pays, qui violent avec les étrangers, en conflit avec les étrangers, le territoire national. Et ces gens-là, puisque nous avons donné quelques exemples, certains qui étaient dans la rébellion se sont retrouvés à des postes de responsabilité, certains même en réclame, sont devenus des vierges politiquement par l'effet de décrets de nomination ou des ordonnances de nomination. Donc il faut que dans le pays, la loi soit d'abord protégée. C'est-à-dire la loi, il ne suffit pas de la voix des textes de loi. Vous avez par exemple le Congo ici, à toutes les sessions parlementaires, on dit on a fait des performances parce qu'on a voté des lois, etc. Mais l'essentiel n'est pas de voter des lois. L'essentiel est d'avoir, et ces lois sont appliquées. Et j'ai dit plusieurs fois que dans un pays, les lois les plus importantes dans un pays, la loi la plus importante, c'est la loi relative aux finances de l'État. Parce qu'il n'y a pas d'État sans argent. Or, c'est le seul point où on pêche davantage, on ne met pas l'accent sur la gestion des ressources. Les ressources ne sont pas suffisantes. Comment elles sont gérées? Comment elles sont réparties? Parce que le grand problème dans un pays, pour que les gens se retrouvent, c'est la répartition des ressources disponibles. Et cette répartition des ressources disponibles exige que ceux qui sont à la gestion fassent tout pour ne pas s'approprier ces ressources, mais qu'ils les partagent avec l'ensemble de la population. Parce que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a pas mangé suffisamment, puisque dans le rapport on parle de la sécurité mm-hmm. alimentaire, le Congo est parmi les pays où il y a l'insécurité alimentaire, même comme on n'en fait pas souvent publicité, c'est peut-être ce matin qu'on a finalement pensé que non, au Congo aussi il y a des gens qui ont faim, parce que nous-mêmes nous cachons nos misères. Voyez ce qui se passe en Centrafrique. Mais la situation de Centrafrique, c'est depuis 4 mois seulement. 4 ou 5 mois. Mais vous voyez tout ce qu'il y a comme famine, aggravation de la situation de pauvreté, violation des droits de l'homme. Mais au Congo, on a vécu ça depuis plus de 10 ans. Et ces gens qui font ça, ils se battent pour revenir dans les institutions. Et on les accepte. Mais il faut qu'on bannisse ça. Il faut qu'on bannisse, on ne doit pas bannir par le discours, on doit bannir par les actes. Il ne faut pas que ce soit toujours les étrangers ou bien la Cour pénale internationale qui décide de poursuivre les gens que nous pouvons poursuivre. Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui sont dans des rébellions disent ben, « on a attaqué nos positions, et le FRDC, mais vous êtes de quel état alors ?» Vous avez donc un état pour dire « non, les FRDC nous ont agressés, nous allons riposter ». Mais ça ne s'explique qu'au Congo. Alors, vous voyez que c'est tout à fait normal que sur le plan sécuritaire, quand on évalue, on fait une évaluation, on prend les indices, les indicateurs, c'est quoi ? Sécurité. Est-ce qu'il y a la sécurité ? Non, il n'y a pas de sécurité parce qu'il y a des bruits de bande à l'Est. Mmh. Donc, on sera seulement mal classé. Est-ce que nous sommes responsables à 100%? Nous ne le sommes pas parce qu'on sait qu'il y a aussi des étrangers qui sont à la base de cette situation-là. Mmh. Mais nous devons nous battre, nous avoir une cohésion nécessaire pour pouvoir résister face à ces agresseurs qui viennent d'ailleurs. Quand on prend la question des droits de l'homme, on voit qu'il y a des violations des droits humains partout, violences faites aux femmes, aux enfants. Il n'y a pas qu'à l'Est, même à l'intérieur, il y a des violations des droits de l'homme. Alors quand on prend ce critérium-là, mais on sera toujours mal classé. Je pense seulement à ces éléments-là. Quand on voit la qualité de la gouvernance, les fonds qui sont disponibles par exemple pour le budget de l'État, l'État c'est quand même un des agents économiques les plus importants dans un pays. 7 milliards. Vous avez 7 milliards ou 8 milliards sur 70 millions d'habitants. C'est insuffisant alors que nous avons des États voisins qui ont moins d'habitants et qui ont des budgets colossaux. L'Angola, c'est près de 50 milliards de dollars. Mais le budget provient de quoi? Des ressources qui sont collectées dans un pays. Mais lorsque ces ressources se volatilisent par l'effet des agents chargés de la perception de ces recettes, qui sont connus. Parce que souvent, dans ce pays, quand on voit, on critique les autorités politiques, on voit seulement que non, ce sont les ministres au niveau gouvernement qui pillent. Mais les plus grands pilleurs ne sont pas dans les gouvernements. Les plus grands pilleurs sont dans les administrations financières et fiscales. Et c'est connu. Et ces gens-là, on les voit, comment ils construisent des maisons. Mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent, puisqu'on connaît leur rémunération mensuelle. Dans un état sérieux, on doit se poser la question, mais messieurs, vous construisez avec quels moyens? On peut contrôler ces moyens. La moindre des choses, c'est par exemple, bon, comme vous avez construit, c'est bien, mais payez les impôts fonciers. Ils ne payent pas des impôts fonciers. Et la plupart des États qui nous gouvernent. Mais vous savez qu'ils financent le Congo avec quoi? Avec les impôts fonciers. Vous avez sur la voie publique, vous avez des policiers, vous avez des militaires qui raquettent les gens tous les jours. Et cet argent va dans les poches des individus. Alors qu'ailleurs, ce sont les contraventions au code de la route qui augmentent les recettes de l'État. Voyez comment dans la ville les gens conduisent. Et on vit au-dessus de tout le monde, ils violent, ils causent des accidents, ils ne sont pas inquiétés, et c'est l'argent de l'État.
Oui, professeur,
vous savez que la police, c'est quand même, la police c'est un des agents percepteurs de recettes publiques. Mais c'est réellement dans les poches des individus.
Oui, professeur Grégoire, il y a Dadi de Kinshasa qui a parlé de toutes ces réunions de la Troïka. Bon, lui, personnellement, il ne se retrouve pas, hein, il dit par rapport à ses rapports, et les réunions intempestives de la Troïka, ça ne produit pas. Donc, en fait, il ne se retrouve pas entre les deux. Il trouve qu'il y a vraiment un hiatus.
Bon, c'est tout à fait normal qu'il ne se retrouve pas parce que ces indicateurs sont basés sur quoi? Ces indicateurs sont basés sur la production et la production intérieure. Alors, qui produit dans ce pays? Vous voyez, ceux qui produisent dans ce pays, c'est principalement les étrangers. Moi, je vous dis, j'ai eu le malheur d'avoir été au ministère de l'économie. Je sais comment les choses se passent. Et qui sont opérateurs dans la production? Il n'y en a pas. Tous importent. Et ceux qui sont dans la production, quand ils produisent, ils ne paient pas des impôts. Lorsqu'ils doivent payer des impôts, il y a des interventions, et on n'arrive pas à percevoir les recettes, rien qu'à voir la manière dont la ville se développe en termes de construction, etc. Mais si on était conséquent, on devait savoir l'origine de ces fonds. Ces fonds passent par où? Ça ne passe pas par le système bancaire. Mmh. Parce que nous avons des banques, mais que les banques qui ne participent pas au financement de l'économie. Les banques sont là maintenant seulement pour payer les fonctionnaires de l'État, mais il n'y a aucune banque qui puisse aider un opérateur économique congolais de manière à aller dans la production, par exemple production agricole, prendre un engagement pour dire nous allons financer 100 Congolais qui doivent s'adonner à la production agricole dans le pays. Il n'y a pas, l'agriculture c'est un peu de tout, la pêche, etc. Nous continuons aujourd'hui à importer les poissons que vous appelez chinchards. Mais c'est pas des poissons pour les hommes, ça. Voilà, et nous continuons à les importer alors que nous avons des poissons dans nos fleuves. Mais qui a investi dans le fleuve?
Voilà, professeur, on va revenir encore à vous. Le temps d'ouvrir cette deuxième série des auditeurs. Il y a Omar qui nous a rejoint, il est de Kinshasa. Raphaël est à Lubumbashi. Omar, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Voilà, que proposez-vous pour améliorer cette situation liée au tout dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahima?
Merci beaucoup JR. Avant toute chose, je voudrais adresser mes sincères civilités au professeur Greg Bagandeza qui m'a enseigné en deuxième année les cours de finances publiques et un professeur que je remercie, que je considère comme un des modèles à penser. Alors, je voudrais, avant de proposer mes solutions JR, être un peu nuançable. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, nous accueillons avec bienveillance les rapports de la Fondation Ibrahim. Mais moi, je me suis toujours dit, comme l'a dit Gaston de Kinshasa, la Fondation est composée de personnes privées qui peuvent se lever matin sur les rapports. Alors, il faut avoir un œil regardant envers ces rapports. Le professeur Bakaneta nous a toujours appris quand on était étudiants qu'il ne suffit pas d'alléguer un fait, encore faut-il en apporter la preuve. C'est vrai que nous savons que notre pays est dans le sous-développement, mais là, ça ne signifie pas qu'il doit accueillir toutes les misères du monde. La Fondation Mont Ibrahim, j'ai visité son site hier soir, je n'ai pas vu sur base de quels faits pratiques ils se sont visés pour dire que c'était la cité. C'est vrai, la sécurité, c'est remarquable, le respect des droits de l'homme. Mais quelles sont les enquêtes qui ont été menées de façon visible pour nous dire, voilà, dans telle prison, dans telle ceci, dans telle ville, on a arrêté telle personne. Nous ne voulons plus de simples spéculations. Nous voulons, lorsqu'on fait un rapport, qu'on nous apporte également des faits qui peuvent sous-tendre ces rapports. Parce que j'ai visité hier, je n'ai pas vu ça. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut proposer, M. J.R., pour une bonne marche de ces pays? Premièrement, je crois que les professeurs l'ont aussi repris lors de notre forum en 2007 sur les finances publiques, la volonté politique qui doit caractériser les hommes qui gèrent ces pays. Cette volonté voudrait qu'on travaille d'abord pour l'intérêt général et non l'intérêt privé. Et de deux, il faudrait mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxièmement, les profs l'ont aussi souligné, le respect des lois établies, c'est aussi l'un des indicateurs du développement d'un État. Lorsqu'on se limite à mettre en place des lois qu'on ne respecte pas, c'est comparable à une personne qui sème des arachides grillés. Aussi, il faudra qu'on fasse la gestion rationnelle des finances de l'État. Il a été démontré au travers ces rapports que c'est la mégestion des finances publiques qui caractérise aussi certains pays en sous-développement. On doit gérer rationnellement. Ce qui veut dire qu'il faudra affecter les dépenses de l'État vers les secteurs les moins coûteux et les plus rentables. Il faut éviter les dépenses économiquement utiles. L'État congolais, via les gouvernements, doit savoir faire la différence entre la priorité et l'accessoire, entre les structurels et conjoncturels. On réhabilite un port avec 50 millions de dollars alors qu'on doit soulever ou augmenter les salaires des Congolais. C'est ça. On n'a pas encore cette culture-là des priorités. Des deux, il faut aussi qu'il y ait la punité des actes illégaux. Il y a des violations de lois qui sont flagrantes. L'État, via les pouvoirs judiciaires, doit savoir condamner, car la loi n'a de sens que si elle est appliquée. Une loi non appliquée comparable à un sac vide qui ne peut se tenir debout. Et enfin, ce qui est très important, c'était même l'une des recommandations qu'on nous fait, mes étudiants, avec le Forum des finances publiques, on doit contrôler. D'abord, les contrôles parlementaires et tous les actes gouvernementaux. J'ai avec moi les tableaux significatifs, synthétiques, pardon, de la première législature. Aucun contrôle parlementaire n'a abouti. Aucun. La majorité parlementaire est confondue à la majorité gouvernementale. Aucun, monsieur J.R., je vous dis, n'a été abouti. Nous voulons que le député sache d'abord qu'il travaille pour le peuple congolais et non pour leur parti politique. Si le contrôle est sérieux, les gouvernants auront peur, les gestionnaires auront peur et on aura bien géré. Et enfin, il faut qu'il y ait aussi les contrôles juridictionnels de tous les actes administratifs. Mais les tous ces J.R. se résument par la conscience de toute personne, gouvernant comme gouverné, respectons les lois de ces pays, changeons de mentalité, et je pense qu'on aura fait une étude. Voilà ma préoccupation, je vous remercie.
Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour Raphaël.
Bonjour monsieur le journaliste, c'est Raphaël Tumunga de Lubumbashi.
Oui, vous avez la parole.
Oui, selon moi, je trouve que parmi les facteurs qui encouragent ces mauvais rapports contre l'Afrique, il y en a deux. Il y a les conflits et les politiques. Premièrement, je vais parler des conflits. Pour qu'il y ait un bon développement et une paix durable en Afrique, il faut d'abord que les pays africains évitent les conflits entre eux. Parce que souvent, lorsqu'il y a des conflits, et à ce moment-là, que même les Occidents profitent de l'occasion pour voler nos richesses, hein, comme en RDC. Lorsqu'il y a des conflits à tout moment entre la RDC et le Rwanda, il y a à tout moment des vols de nos richesses et tout seul qui sont volés à tout moment par les rebelles. Et des deux. Je vais parler politique. Aujourd'hui, ce que nous remarquons d'abord au Congo,
le tout est politisé. Même l'administration qui a sa logique propre est maintenant politisée. Vous allez voir aujourd'hui, même dans certains partis politiques, il y a certains patriotes de certains partis politiques qui sont devenus des intouchables. Ils arrivent aujourd'hui à commettre beaucoup de crimes. Aujourd'hui, il y a même une personne qui a violé, qui a posé
donc
un
acte de meurtre et assassinat,
qui après deux ou trois jours, il est libéré. Après deux ou trois jours, il est libéré. Et aussi dans l'administration. Dans l'administration, maintenant, le politique commence à mettre certaines personnes qui sont incapables, les gens qui n'ont même pas de qui n'ont pas la capacité là de défendre un travail, comme par exemple au niveau des militaires, un monsieur qui n'a pas fait la formation militaire aujourd'hui est appelé général, est appelé major. Qu'est-ce qu'il va faire pour défendre le pays à cas d'une attaque?
Voilà, donc merci
ça,
beaucoup.
Le problème. Il y a les conflits et
les problèmes politiques.
Ce sont les deux facteurs
qui font aujourd'hui
ces rapports.
Merci beaucoup, Raphaël. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Maurice.
Bon, je voudrais commencer par féliciter d'abord les intervenants qui m'ont précédé. Et réagir à l'intervention de Omar, qui m'a surpris par son intervention. Hein. Aujourd'hui, j'ai senti Omar a eu tendance à contester la fiabilité et la crédibilité de
ce rapport,
de cette statistique. Mais je veux lui dire ceci. Il y a, je crois, une année, deux ans, on avait parlé de l'indice du développement humain, où les pays se situaient toujours à la même place, presque, même qui fermait même le classement. Mm-hmm. Hein? Ces organisations sont crédibles, mondialement reconnues. Donc, ces classements viennent quand même corroborer ce que nous avions toujours décrié, ce que nous avions toujours soutenu à travers nos émissions ici de paroles aux auditeurs. Alors, je voudrais faire une observation par rapport à ces classements. Dans ces classements, vous verrez que les pays qui sont derrière nous, je voudrais notamment parler de la Somalie. Aujourd'hui, la Somalie est comparée au Congo, donc nous présentons les mêmes similitudes sociaux et économico-politiques. Hein? Donc ce sont des États qui sont considérés des États voyous, des États non gouvernables. Ce sont des États où il n'y a pas vraiment l'État, l'autorité de l'État, il n'y a rien, donc il y a un problème réel de leadership qui
représente
vraiment ces nations. Alors, donc, je voudrais dire ceci pour finir que à chaque fois quand nous avons un classement qui tombe, nous devons quand même nous congolais parce que nous nous retrouvons. Nous sommes victimes de ce système de gestion, nous sommes victimes de ce système de gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire les contraires, raison pour laquelle je félicite d'abord tous mes prédécesseurs. Aux professeurs, j'ai compris les professeurs dire que nous avons toujours tendance à condamner les politiques et au lieu aussi de s'en prendre aux gestionnaires des entreprises étatiques. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes, monsieur le professeur, il n'y a que des mauvais chefs. Ces dirigeants des entreprises publiques sont sous tutelle des politiques, comme vous le savez. C'est pas moi à vous l'apprendre, monsieur le professeur. Alors, nous allons voir que dans la situation actuelle de notre pays, FMI a suspendu la RDC, vous le savez, ITEA nous a suspendu il y a une année, il y a presque quelques mois plus tôt, on avait même parlé dans cette émission.
Oui, vous voulez parler de l'ITIER.
Oui. Pardon?
De l'ITIER, vous parlez de l'ITIER.
Oui, l'ITIER, voilà, oui. Merci pour le correctif, monsieur Gilles.
Oui, allez-y.
Alors, l'ITIER nous a suspendu, FMI nous a suspendu, donc nous avons presque partout, dans tout les grandes organisations financières mondiales, donc nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas un État crédible, un État vraiment vraiment non gouvernable. Donc
nous devons soutenir
ces classements de Fondation Mo Ibrahim, pour que vraiment cela puisse donner quand même du tonus à ces gouvernants, ceux qui pensent que vraiment diriger aujourd'hui, d'avoir vraiment les monopoles de faire n'importe quoi sur la population qui croupit dans la plus grande misère indescriptible aujourd'hui.
Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé les Kinshasa et nous vous rappelons d'ailleurs, disons, on vous signale que dans les jours à venir, nous projetons d'ailleurs faire une émission sur la thématique concernant la volatilité de relations entre les institutions de Bretton Woods et la RDC. Donc on fera un débat avec vous autour de cette question et également, donc nous cherchons à mettre quand même la main sur des experts en la matière pour éclairer notre lanterne donc dans les jours à venir. Merci beaucoup, hein, Maurice, d'avoir appelé. On va prendre Étienne avant de revenir à notre invité, le professeur Grégoire Bakandeja. Et petit à petit, nous approchons de la fin de cette émission. Étienne, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Guémena qui nous suivent sur 95.4.
Voilà, Étienne, vous avez suivi vos prédécesseurs. Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Ok, merci monsieur le journaliste. J'ai suivi le prédécesseur et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt même le professeur qui est notre invité. Mais monsieur le journaliste, il y a une chose que je voudrais relever, surtout dans le cas du professeur.
Voilà, dommage, Étienne n'est plus en ligne. On a des petits soucis hein, sur la ligne d'Étienne. Nous vous invitons, chers auditeurs, à participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, professeur Bakandeja, Grégoire Bakandeja, vous êtes avec nous. D'abord, comment réagissez-vous par rapport à toutes ces interventions?
Oh, mais ce sont des interventions tout à fait pertinentes. Je suis heureux de retrouver même certains de mes anciens étudiants, ce qui prouve bien que je n'ai pas prêché dans le désert et qu'ils ont bien intériorisé les problèmes de développement de notre pays. Sur la question de la gouvernance, personne ne peut contester ce qui a été fait par les experts. Il y a d'ailleurs notre ami Maurice qui a rappelé que le rapport qui sort, il est parti du rapport des Nations Unies sur le développement. Donc il n'y a pas de grands changements. Alors quand on prend seulement la définition que la Banque mondiale donne de la gouvernance d'une manière générale, là, nous avons dit que c'était une notion multidimensionnelle et globalisante, la Banque mondiale définit la gouvernance comme étant donc l'exercice du pouvoir politique dans la gestion des affaires d'une nation. L'exercice du pouvoir politique dans la gestion d'une nation. Alors, donc, elle conçoit donc l'amélioration de cette gestion en termes de réforme du secteur public. Il y a eu, je crois, des réformes, c'est ce qu'on a parlé, privatisation, des réglementations, des nationalisations. Ensuite, il y a la question de la responsabilité politique. On a expliqué davantage la responsabilité, l'idée de rendre compte. Et la manière de rendre compte, c'est à travers, par exemple, les élections qui sanctionnent les mauvais gestionnaires. Ensuite, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'alternance. Alors, il y a aussi la question de la légitimité du régime et d'institutionnalisation du pouvoir. Ça, c'est par opposition à l'emploi du pouvoir à titre personnel. Vous avez vu, lorsque les gens s'échappent à prendre le pouvoir à titre personnel, il y a eu tous ces soulèvements qui conduisent. Mais on met aussi l'accent sur certains secteurs essentiels du pluralisme politique et de la participation et enfin de la décentralisation. On a donné tous ces éléments-là qui montrent bien que nous avons à un certain moment intérioré intellectuellement ces facteurs en ce qui concerne le Congo, parce qu'il y a toujours il y a des réformes, on a déjà fait des réformes, etc. Mais ceux qui participent à ces réformes ne remplissent pas toujours les mêmes conditions. Voyez par exemple ce qui s'est passé avec les concertations nationales. Les gens se sont précipités. Est-ce que tous ceux qui pouvaient apporter plus en termes d'intelligence au service de l'État y ont participé, certains en ont été exclus. Donc vous voyez que dans la manière des choses, on doit associer tout le monde. Quand on parle de la participation, on doit associer tous les Congolais. Parce que la gestion des affaires de l'État, c'est comme dans un hôpital. Aujourd'hui vous êtes là, demain quelqu'un d'autre doit être là. Voilà pourquoi on met l'accent sur la notion de développement durable. Il ne faut pas voir simplement ce que vous faites aujourd'hui qui satisfait à vos intérêts personnels. Il faut voir, après vous, qu'est-ce que le pays va être dans 10 ou 15 ans. Et c'est pourquoi dans beaucoup de pays, on réfléchit sur ce que sera tel pays dans 10 ou 15 ans, tel pays dans 20 ou 30 ans. Et les gens réfléchissent, mais ceux qui réfléchissent là, ceux ne sont pas sûrs d'arriver à 100 ans puisqu'on n'est pas éternel sur cette terre.
Donc,
voilà pourquoi dans tous les pays, on doit mettre l'accent sur la manière de prévenir les dangers qui guettent la nation. Parce que tout le monde sait que le Congo, bien sûr, on a des richesses, on fait ça, devenu un discours, scandale géologique. Mais si ces richesses ne sont pas transformées, et pour les transformer, il faut être en intelligence avec ceux qui ont des moyens pour les transformer, avec votre concours. Et si les rebelles, là, avec les États voisins, arrivent à convaincre les gens à venir investir là où il y a la guerre, qu'est-ce que nous on fait là où nous sommes en pouvoir, on a la souveraineté, on a la reconnaissance internationale. Qu'est-ce qu'on fait pour convaincre ces étrangers-là qui préfèrent traiter avec des rebelles au lieu de traiter avec le gouvernement central? Donc il y a quelque chose qui... Nous devons nous poser des questions. Pourquoi on arrive à faire ça? C'est parce que nous n'avons pas cette crédibilité qui permet de convaincre les gens. Voilà pourquoi dans tous les pays, à un certain moment de l'histoire, on associe l'ensemble de la communauté à la gestion du pays, parce que, bon, le pays est ce qu'il est. Vous savez, dans ce pays, nous avons eu des pertes d'indépendance. Est-ce que nous les avons encore? Non, les pertes d'indépendance sont partis. Nous avons eu d'autres dirigeants. Mais demain, comment on peut préparer pour nos enfants? Nous sommes quand même dans un pays où la fabrication des espèces qui nous ressemblent, c'est là où il y a plus de développement. Mais en termes d'assurance, de garantie pour ces espèces qu'on a fabriquées, pour leur survie, il n'y en a pas. On parle de pauvreté, on parle de famine, on parle de violations
des droits humains,
oui. Etc. Et donc le rapport reflète en réalité ce que nous sommes. Oui. Mais c'est une interrogation. Nous devons renverser cette tendance-là au dépérissement. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que le pays nous revienne. Nous en avons les capacités, pourvu que nous nous réunissons, nous nous unissons, parce que la notion d'unité...
Voilà, professeur, si vous pouvez encore rester en ligne, professeur, restez en ligne. On va poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'information. Voilà, merci de rester avec nous et nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Professeur Bakandeja, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, monsieur.
Voilà, vous parlez tout à l'heure de l'idéal pour renverser la tendance. C'est vrai, encore vos propos. Là, j'imagine qu'il faudrait vraiment s'inscrire dans les temps pour y arriver.
Bon, mais il est temps de commencer. Hein. Vous voyez, par exemple, nous venons de suivre le bulletin d'information là. Est-ce que c'est normal que des mouvements, un mouvement rebelle puisse... faire de telles déclarations, et puis il y a des États qui se disent des États facilitateurs qui ne peuvent pas accepter que la même situation se fasse pour leur propre pays. Et vous voyez que nous acceptons n'importe quoi, ça, c'est un peu révoltant. Et je comprends les réactions, par exemple, du ministre de la Communication, M. Lambert Mende, qui montre bien que le monde est à l'envers. Mais je ne peux pas comprendre que des gens se comporte de cette manière-là. Mais tout ça, on le fait pourquoi? Parce que nous avons laissé des brèches. Et nous avons laissé ces brèches depuis les années 90. Nous avons été irresponsables, on ne peut pas continuer à être irresponsables au point de mettre en cause l'intégrité du territoire. Je sais que le grand problème qui se pose dans le monde aussi, c'est un problème de partage de l'espace. Ça, ce n'est pas seulement le cas pour le Congo. Mais on doit quand même reconnaître des limites à chaque État, et lorsqu'on doit partager ses ressources, ça doit se faire non pas par une négation de certains droits.
Voilà, professeur. Oh, dommage, nous avons également des petits soucis sur la ligne du professeur, mais on va lire quand même quelques messages. Serge Bobo, qui rejoint également les propos de professeur Bakandeja tout à l'heure, qui dit ceci, l'amélioration de tous ces facteurs au pays demande une préparation à long terme dans les systèmes éducatifs, surtout les universités congolaises qui doivent se conformer au mode international en vue d'attirer toutes les nations du monde des faire comme elle, voilà. Et en fin de compte, je suggère à ce que tout Congolais donne son apport au développement du pays, qu'on arrête les accusations inutiles et que tout le monde passe en action. Rodrigue Chiledou, depuis l'ICASI, ça ne m'étonne pas, la RDC mérite bien cette position. Pour éviter la répétition de ce problème, je dirais qu'il faut mettre les gens conscients à la place qu'il faut. Arafat Tchamouta, je pense que cette place doit nous interpeller tous, en tant que Congolais en général et en particulier les politiques. En RDC, ce qu'il manque, c'est une question de volonté des politiciens et le sens de responsabilité. Et là, on y arrivera. Adélard Soudi, je pense que cette place est bien méritée. Le grand problème, qu'il faut que les hommes conscients soient affectés aux places qu'il faut. Donc, il faut une éducation civique. On va prendre les tout derniers auditeurs qui ont bouclé ces débats. Joseph qui est à Bukavu et à Kizala à Paris, en France. Joseph, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Et vraiment, c'est déplorable et humiliant concernant tout ce que l'invité vient d'illustrer et aussi la place dont nous occupons. Alors, on se demande vraiment, nous sommes dans quel pays, comment la res publica est gérée. Alors, la manière dont nous étudions, la manière dont nous mangeons, vraiment, nous ne sommes plus à ce niveau. Alors, avec les budgets de 7 milliards, vraiment, c'est déplorable. Alors, de tout ce que j'ai illustré là, vous payez quelqu'un, un militaire, 30 000 francs, les enseignants ne sont pas payés. Comment le pays va aller de l'avant? Alors, je pense qu'on a tous les atouts, mais nous n'avons pas les bons dirigeants. Je me pose du jour au jour la question si nos dirigeants suivent cette émission, puisque comment les auditeurs pleurent du jour au jour la manière dont nous vivons.
Oui, Joseph, oui, Joseph, s'il vous plaît, Joseph, nous avons eu à brosser les tableaux. Au fait, l'indice de ce rapport est établi sur la base de la performance des pays dans 4 catégories de gouvernance. Alors, je ne sais pas, votre intervention, disons, s'inscrit dans quelle catégorie? La sécurité, la souveraineté du droit, la participation et les droits de l'homme, le développement économique durable ou encore le développement humain? Voilà, dommage, nous n'avons plus Joseph en ligne. Takizala, vous êtes à Paris, en France. Bonjour, Takizala.
Bonjour, Gérard. J'ai accepté de nous accorder cette parole qui est très importante pour le peuple congolais, moi-même qui est congolais d'origine. Vraiment, c'est un sujet qui est très important. Moi, je pense que j'évoquerai le développement humain et l'économie, parce que ça fait longtemps que dans ces pays-là, on n'a jamais traité le problème économique et le problème des apports humains. Parce que c'est les humains, dans toutes les nations qui veulent avancer, on doit miser sur la population et on doit miser sur l'économie. Malheureusement, dans notre pays, c'est toujours la politique qui prime, mais il faut parler de l'économie. On ne peut pas faire l'économie dans un état où il n'y a pas le pouvoir d'achat ou le revenu de la population. La population doit avoir un revenu et puis un système qui favorise l'économie. Par exemple, le système bancaire, la poste postale du Congo qui devait être un moteur, un vivier sur tout le pays, l'étendue, en commençant par livre d'épargne pour tous les peuples congolais, parce que toute économie qui s'est faite, vous savez, c'est des termes théoriques et notre population ne vaut pas cher.
Oui, allez-y, allez-y, Takizala, on vous suit.
Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, la lettre de Nobel du peuple congolais doit redonner. Donc, on doit donner d'abord une image. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Kinshasa, les gens se déplacent pour rien. On va dans des autres pays, le pessimisme est rentré dans la tête de la population congolaise. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas respecté dans le monde parce que nos fondations, qui est l'État congolais, nous-mêmes, le peuple congolais n'existe pas. À chaque fois, on prend toujours la boucle mystère, voilà le gouvernant. Avant d'être gouvernant, on est dans la population. Aujourd'hui, on doit traiter le problème à la racine. Il faut qu'on ait un vivier, on voit d'autrement, il faut qu'on crée un dynamisme, parce que tout le monde doit participer. N'oublions pas qu'aujourd'hui, tout le monde ne participe pas. Notre économie est basée dans quel secteur? On parle toujours de matières précises. Est-ce que tout le monde en profite?
Est-ce qu'on a des artères économiques congolaises? Non, je pense pas. Donc il faut que les Congolais et même les mamans marchières puissent participer. Mais pour les participer, il faut un système. Ce système doit être créé par les Congolais eux-mêmes. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, dans tout le Congo, on voit les autres comme ils sont des livres de Rado, par exemple, excusez-moi le terme. Vous voyez ceux qui sont aux affaires ou ceux qui ont le boulot au Congo, croient qu'il faut aller ailleurs pour réussir. Mais la réussite est au Congo. Monsieur Gilles, je pense qu'il faut qu'on construise une autre façon. L'homme congolais doit d'abord savoir où on est où et qu'est-ce qu'on doit faire pour y aller, pour avancer. Le monde est devenu un globe, comme disait notre interlocuteur tout à l'heure, hein, l'intervenant du premier, c'est un globe. Nous avons des atouts, mais il faut l'utiliser ces atouts. Mmh. Arrêtons de l'infantiliser la population congolaise. Mettons des bases concrètes. Ne croyons pas qu'à part le Congo, il y a une nation qui peut nous... Donc avant de créer un système, un tas, il faut que le peuple congolais même prenne en charge sa situation géopolitique, économique. Mais le problème économique est très crucial aujourd'hui au Congo. Il faut qu'on travaille dans ces aspects, qu'ils soient ceux qui dirigent, qu'ils soient la population. Prenons le cas de quelqu'un qui a 3 000 euros à Kinshasa, qui croit qu'il faut aller ailleurs pour réussir. Mettons ces 3 000 euros à l'économie congolaise, mais il va mettre comment dans un pays où il n'y a pas un système bancaire adéquat?
Merci beaucoup, merci beaucoup. Takizala, d'avoir appelé de Paris en France, et surtout merci de cette contribution. Nous revenons à vous, professeur Grégoire Bakandeja, pour conclure cette émission. C'est vrai, il y a Patient Kafula qui nous a écrit et il a dit il faudrait accélérer le processus de la décentralisation permettant les développements à la base. Comment vous réagissez?
Oh là là, d'abord je voudrais, moi, à mon tour, féliciter tous les intervenants, surtout le dernier, M. Takizala, qui appelle de Paris. Il a un cri de cœur, c'est tout à fait normal. Il faut mettre l'accent sur l'économie, mais l'économie, c'est quoi en fait? L'économie porte sur quoi? On l'a dit, l'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Et cette production doit être une production intérieure. Et on doit mettre l'accent, par exemple, puisqu'on prend l'aspect qui est le plus facile, par exemple, dans les mines, les hydrocarbures, etc., qu'on produise localement et qu'on transforme aussi localement pour donner une certaine valeur. En donnant de la valeur au bien produit localement, ça permet de contribuer à l'augmentation des richesses. L'accent doit être mis aussi sur l'homme, sur l'humain, les ressources humaines. Il y a beaucoup de réformes qui se font dans ce pays. Mais quand on fait ces réformes, on recourt toujours à des consultants extérieurs, etc. Alors que localement, on peut recourir à des gens qui ont les qualifications nécessaires. Aujourd'hui, on parle de la réhabilitation du code minier. Mais qui sont consultés pour cette réhabilitation du code minier? Alors qu'il y a des spécialistes de code minier qui existent dans le pays, ils ne sont même pas consultés. Après, on va avoir des lois qui vont aller contre même l'organisation de notre système. Tout ça parce que c'est un petit problème de quelques jours qu'on doit se partager, etc. Donc ça ne fait pas sérieux. Il faut voir, valoriser l'humain, mais pour le valoriser, il faut qu'on travaille, parce que l'État aussi, l'argent de l'État provient de ce qui est produit localement. Si on ne produit pas localement, on n'aura rien. Il faut avoir une justice qui vise le droit et non pas qui détruit l'entrepreneuriat. Et vous avez dans ce pays des jugements iniques qui découragent les investisseurs. Beaucoup de gens ne veulent pas venir. On a parlé des réformes en matière de réformes juridiques et judiciaires. On a dit il faut instaurer un droit moderne comme le droit de l'OADA. Mais on ne l'applique pas. Et ce droit-là ne vise pas la mort des entreprises, mais ça vise la vie des entreprises. Mais regardez comment les entreprises sont traitées. Tout ça, c'est globalisant. Donc, la responsabilité, la gauche, responsabilité à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement la responsabilité du politique, mais la responsabilité du citoyen, sa participation dans les quartiers, dans les rues. C'est pourquoi on a insisté davantage sur la prise en charge, la notion de prise en charge. Si vous ne vous prenez pas en charge vous-même, on va vous considérer, on va vous infantiliser.
Voilà.
Et c'est ce qui se passe dans notre pays, on nous infantilise parce que nous ne sommes pas responsables.
Voilà, merci beaucoup professeur Grégoire Bakandeja d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce rapport de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. Et ce rapport analyse les performances en termes de politique, de sécurité, d'économie, des droits de l'homme et de santé. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt professeur.
Merci, au revoir, merci.
Voilà, nous profitons également pour dire merci à tous les auditeurs qui ont participé à ces débats. Merci aussi à Jean-Claude Sialla qui a été à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie et Nadine Poula. Jirlou Ngembo a eu le plaisir de présenter ce programme supervisé par Nicole Dakar. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro.